Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton et Corentin Mansois, mais aussi Maïder, Gérard et Mélanie Chalandon, réalisée par Benjamin Hu et mise en ondes ce matin par Anthony Thomasson. Deuxième temps de notre semaine consacrée aux droits des personnes LGBT+, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, ça sera vendredi prochain. Hier, nous observions l'impact de ces questions sur la polarisation Est-Ouest en Europe. Aujourd'hui, direction l'Afrique, de Dakar à Pretoria, sortir de l'homophobie d'État, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
In the cells, I was humiliated.
Dans la cellule, j'ai été humilié et battu. Comment je me sens? Eh bien, je pense que je ne serais pas normal si je disais que je ne suis pas en colère, parce que je le suis.
Je gère mon homosexualité de manière très discrète. Je le vis, mais de manière très discrète, parce que je suis dans un pays qui a beaucoup d'homophobie. Donc, pour ne pas être victime d'une agression ou bien d'arrestation arbitraire, on est obligé d'être très discret.
Personnellement, c'est la cinquième fois que la police m'arrête. Donc, je vis tous les jours en surveillant mes arrières. Il y a une certaine peur, oui, mais je ne permets pas que cela me consume. En ce qui concerne la communauté, absolument, les gens vivent dans la peur.
De l'Ouganda au Sénégal, les homosexuels doivent vivre avec la violence de la société, mais aussi la répression des États. Selon la dernière édition du rapport de l'Association internationale des lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexes, l'ILGA, publié en mars dernier, 33 pays du continent africain continuent de pénaliser les relations sexuelles entre personnes du même sexe. Si dans certains États, c'est la condamnation à mort qu'encourent les personnes homosexuelles, les autres pays étalent des peines qui vont de la perpétuité à plusieurs années de prison. Mais surtout, au-delà de la violence d'État, ces législations répressives laissent observer partout un encouragement de la violence populaire, lynchage sauvage ou autres sévices spontanés. Alors comment vit-on, homme ou femme homosexuelle, dans un pays où l'amour vous est interdit? Comment la violence d'État, la violence populaire s'articule? Articule-t-elle? Sur quel terreau culturel, religieux, politique prospère-t-elle? Et comment sortir de cette homophobie d'État? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité Boris Berthold. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin en duplex de Lille. Vous êtes chercheur en criminologie à l'université de Kent en Angleterre. Alors, peut-être pour commencer, une forme de bilan un peu général sur le continent africain, Boris Berthold, quand on regarde la... l'enquête mondiale sur le droit à l'orientation sexuelle de l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes que j'évoquais à l'instant, celle de juin 2017, il y a encore 72 États répressifs, pays dans lesquels les relations sexuelles entre personnes du même sexe sont sévèrement punies, et la majorité de ces pays se trouvent sur le continent africain. Mais quand on regarde les choses de près, Boris Berthold, on voit qu'il y a des avancées dans certains pays. Je pense à l'Angola, où on vient de retirer la clause de vice contre nature. Je pense au Mozambique, qu'il avait fait en 2015. Je pense au Kenya aussi, où on l'envisage. Et puis par ailleurs, il y a aussi des pays où on fait preuve d'un certain progressisme en la matière. L'Afrique du Sud, par exemple, on en parlera tout à l'heure, qui avait adopté le mariage homosexuel en 2006. Est-ce qu'on peut dire que globalement, Boris Berthold, l'Afrique connaît des avancées notables, ou est-ce qu'il faut se retenir de faire une analyse à l'échelle du continent, tant les dynamiques, tant les situations sont éparses et diverses?
Tout à fait, c'est-à-dire que je pense qu'il faut se départir de toute approche globalisante concernant la question de l'homophobie ou encore des droits des personnes LGBTI sur le continent, dans la mesure justement qu'il y a en fait des trajectoires différentes qui sont empruntées par les États en fonction des contextes sociopolitiques, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien relevé, au même moment qu'on observe des avancées dans des États tels que l'Angola, le Mozambique, le Kenya dans une certaine mesure, on a dans le même temps des pays comme le Nigeria récemment qui ont pénalisé les mariages entre personnes de même sexe, mais au-delà de cette dimension également dans les États où il n'y a pas de loi pénalisant l'homosexualité, ils souffrent d'une illégitimité sociale, ils sont réprimés par les populations, et même dans les États où il y a des textes qui ne mentionnent pas explicitement l'homosexualité et que l'État feint de garantir les droits des homosexuels, dans ces détails, on peut avoir ce qu'on appelle la sous-traitance en fait de l'homophobie par l'État auprès des populations, c'est-à-dire que l'État s'arrange à ne pas véritablement recenser en termes de statistiques les violences qui sont perpétrées contre les homosexuels. Et cette absence justement de recensement de statistiques ne permet pas aux organisations de défense des droits de l'homme de mener des travaux conséquent sur le niveau d'homophobie dans la société. Or, au même moment, en fait, les agences de contrôle social, qui sont la police et la gendarmerie, par exemple, protègent, en fait, les auteurs de violences contre les homosexuels. Donc, et au même moment, ceux qui commettent des violences ne sont pas poursuivis pour avoir perpétré des crimes. Donc, il y a, en fait, plusieurs mouvements sur le continent. Mais de manière générale, le sujet est déjà sur la table. On en discute dans toutes les sociétés, bien qu'on puisse parfois penser qu'il y a une tendance un peu à l'augmentation de l'homophobie, ce qui n'est pas tout à fait vrai.
Et puis, par ailleurs, on ne peut pas se contenter de regarder purement et simplement la question législative, parce qu'il y a des pays où, dans la pratique, l'homosexualité est davantage condamnée que dans la théorie. C'est le cas, par exemple, du côté de l'Égypte, où l'homosexualité n'est pas formellement interdite par la loi, mais où des personnes sont quand même condamnées à des peines de prison. Alors, c'est pour des motifs différents. On parle de débauche, on parle d'incitation à la débauche. Donc, la tolérance législative, en fait, ne suffit pas.
Tout à fait. La tolérance législative ne suffit pas. C'est pour ça que je vous parlais de sous-traitance. C'est-à-dire qu'au-delà de cas comme l'Égypte, vous avez la majorité des pays de l'Afrique francophone. Parce que il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que l'héritage juridique lié à l'homophobie relève également du legs colonial. Dans les colonies britanniques, à partir des lois introduites en Inde dès 1865, on les a exportées dans les sociétés coloniales africaines. Et donc, on a en fait les dispositifs juridiques aujourd'hui ne sont que les prolongements de ceux qui étaient en cours dans les anciennes colonies britanniques. Ce qui n'est pas le cas pour les colonies françaises, où il n'y avait pas de loi criminalisant l'homosexualité dans les colonies françaises. Donc beaucoup d'États, en fait, qui accèdent à l'indépendance des anciennes colonies françaises n'avaient pas ce type de texte. Et certains de ces États n'ont même pas toujours ce type de texte, ce qui n'empêche pas que les leaders politiques, les acteurs politiques, les communautés affichent leur hostilité aux homosexuels. Il y a un très bon travail qui a été mené par l'Institut de sondage Afrobarometers en anglais, mais Afrobaromètre en français, sur le niveau de tolérance, à l'égard des homosexuels. Et on se rend très bien compte que l'absence de disposition juridique ou l'absence de loi ne garantit pas la sécurité des homosexuels et ne permet pas d'attester qu'il y ait plus de tolérance dans la société. Donc, même dans l'analyse des dispositions juridiques, il faudrait également intégrer les facteurs culturels, mais également la religion.
Quand on regarde Boris Berthold, je vais un tout petit peu globaliser, essentialiser, et puis vous allez nous apporter de la nuance, mais quand on regarde la carte du continent à très grands traits, on voit que les pays de la façade ouest sont peut-être plus ouverts sur la question de l'homosexualité, même si évidemment il y a des exceptions avec des pays où c'est encore pénalisé. Je pense au Nigeria, au Cameroun, au Ghana, au Togo, au Sénégal, à la Guinée, au Libéria, à la Sierra Leone. Mais globalement, si on part du nord-ouest pour aller jusqu'au sud, on a des pays où c'est peut-être, en tout cas, moins pénalisé. Alors que sur la façade orientale, on a globalement des pays qui pénalise davantage, j'enlève de cette généralité l'Afrique du Sud et le Mozambique. Mais est-ce qu'on peut dire que globalement, l'Afrique de l'Ouest serait plus tolérante à l'égard de ces questions? Et si c'est le cas, comment le comprendre? Est-ce qu'il faut convoquer là l'argument du legs colonial, comme vous le faisiez à l'instant, ou est-ce qu'il faut aller au-delà?
Déjà, je ne suis pas très sûr qu'il y ait une très grosse différence au niveau de la répression d'État entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe du Sud, peut-être parce que d'un point de vue médiatique, il y a beaucoup plus de communication sur l'homophobie en Afrique australe et en Afrique au sud.
Pour être tout à fait clair, et je vous laisse poursuivre, Boris Berthold, pour affirmer ce que je disais, je me suis tout simplement appuyé sur une carte avec les pays qui condamnent l'homosexualité en fonction du temps de cette condamnation, perpétuité, plus de 10 ans, moins de 10 ans. Et, donc voilà, c'est à partir de cette carte-là que j'ai sous les yeux que je posais cette question-là.
Oui, mais je vous comprends très
bien.
J'allais dire l'analyse
médiatique de la chose.
Non, je vous comprends très bien. C'est-à-dire que si on se réfère justement à ce qu'on peut avoir sur la main en termes de loi, comme je disais tantôt, on peut avoir une vue biaisée du sujet. Parce que vous souvenez très bien que ces États, ce sont principalement des anciennes colonies britanniques. Ce qui n'est pas le cas pour l'Afrique de l'Ouest, où majoritairement l'Afrique de l'Ouest, ce sont des anciennes colonies françaises. Donc, si on veut simplement travailler sur la base des dispositifs juridiques, on peut avoir l'impression, justement, qu'il y a une différence entre l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas tout à fait clair maintenant lorsqu'on entre dans les techniques de répression, la mécanique de répression, les discours homophobes. Et on se rend très bien compte que c'est pratiquement la même chose à quelques variantes près.
Quel lien est-ce qu'on peut établir, Boris Berthold, entre la question de l'homophobie et l'état de la démocratie? Quelle corrélation entre l'état de la démocratie dans les pays africains et l'homophobie? Est-ce que quand la démocratie avance, les droits des personnes LGBT avancent aussi?
C'est la thèse défendue par les organisations de défense des personnes LGBT et les gouvernements européens qui, justement, assimilent l'autoritarisme à cet exercice de la masculinité, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que ça a été démontré également dans les pays européens, où lorsqu'on a des pouvoirs qui affirment une certaine masculinité, ou des régimes, ou des partis politiques qui affirment une certaine autorité dans le management et la gestion de la société, on a également un recul, une montée du sentiment homophobe. Donc c'est pas un trait spécifique à l'Afrique, c'est un constat qui a été également mené dans des autres sociétés. Donc maintenant,
alors, ça c'est évidemment, Boris Berthold, la réponse, j'allais dire, la plus naturelle, la plus attendue, sauf que là encore il y a des contre-exemples. Il y a un pays dont on loue souvent le caractère démocratique, c'est le Sénégal. On dit souvent qu'il est assez exemplaire en termes de multipartisme, d'alternance, et pourtant quand on regarde les choses, les conditions des personnes LGBT sont pas très bonnes. Le Sénégal est un pays qui continue de pénaliser l'homosexualité. Alors, comment comprendre ce paradoxe sénégalais à l'aune de ce que vous venez de nous dire?
Tout à fait. C'est ce que j'essayais de dire, qu'effectivement, on ne peut pas penser qu'il y a justement un alliage systématique entre ouverture démocratique et sécurité des personnes LGBT. Et le cas du Sénégal est justement très, très frappant. Et dans ce registre, il faudrait principalement convoquer les facteurs culturels, parce que le droit, en fait, les lois sont des productions sociales. Il faut pas qu'on a tendance à l'oublier. Les lois sont faites par des hommes qui sont socialisés dans des contextes bien précis et qui sont éduqués à partir de certaines traditions, de certaines valeurs et de certaines cultures. Si on prend par exemple le cas d'un pays comme le Sénégal, le Sénégal c'est un pays qui est majoritairement musulman, à près de 95% de la population. Et on se réfère au texte, à l'interprétation rigoureuse de l'islam, parce que on a l'erreur analytique qu'on fait souvent, ce n'est pas de suffisamment mentionner le fait qu'il y a des approches dans l'islam qui consacrent également les droits des personnes LGBT. Donc, si on veut se référer simplement à l'islam avec la distance nécessaire, on peut penser qu'il n'est pas justifié qu'on nous produise des discours où on nous fait savoir qu'il y a une pénalisation de l'homosexualité dans l'islam, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ce qui est en cours, en fait, dans les sociétés majoritairement musulmanes, c'est une approche plutôt radicale ou qu'on peut qualifier de néo-traditionaliste du Coran. Et c'est cette approche, justement, qui est en vigueur dans des pays comme le Sénégal. C'est pas suffisamment relevé, mais on peut remarquer très bien que lorsque le Sénégal accède à l'indépendance, À titre d'exemple, bien qu'il y ait cette disposition, cet article 319 qui qualifie des relations sexuelles entre personnes de même sexe d'actes non naturels, les homosexuels ne sont pas criminalisés, ils ne sont pas réprimés. Au contraire, ils sont appelés dans ce contexte des Gordigan. Et ils occupaient une place sociale et parfois politique. Mais dans le temps long, on se rend compte que la criminalisation ou la répression des homosexuels intervient au même moment de la pénétration de l'islam fondamental dans la société sénégalaise. C'est-à-dire que émergent dès la fin des années 79 et début des années 80 des discours de l'islam radical qui sont prônés par des jeunes sortis des universités et qui ont fait des études en Afrique du Nord et en Arabie Saoudite, et qui sont revenus au Sénégal. Ils créent des journaux, ils commencent à s'opposer en fait à l'approche libérale menée par le président Abdou Diouf. Et c'est donc comme ça qu'on commence à avoir un retour sur une application rigoureuse des valeurs prônées par l'islam. Nous sommes là dès les années 1980. Et si vous remarquez très bien, cette période coïncide avec la révolution en Iran et la montée de l'islam politique. Et il y a donc cette pénétration de ce courant idéologique dans la société qui n'est pas suffisamment prise en compte et ne permet pas de voir à quel niveau les masses, les groupes sociaux s'approprient ce discours. C'est-à-dire que même si on va dire que en Afrique de l'Ouest, les islamistes ne sont pas encore arrivés au pouvoir, ça veut dire qu'on ne peut pas attribuer l'homophobie d'État à ces groupes islamistes. La vérité, c'est qu'ils ont un pouvoir. Ils ont réussi à inculquer leur interprétation rigoureuse de l'islam dans certaines couches sociales qui, justement, se sont appropriées cette interprétation. Et face au pouvoir, souvenez-vous Macky Sall. Macky Sall, avant les élections de 2010,
le président sénégalais, ouvert, pour nos auditeurs.
Le président sénégalais. Il était très ouvert sur la question homosexuelle en 2010 et il indiquait même déjà que lorsqu'il arrivera au pouvoir, il y aura un débat républicain, un débat national sur les homosexuels et qu'il appartenait à l'État de protéger les homosexuels.
Le débat n'a pas eu lieu.
Le débat n'a pas eu lieu, mais le débat n'a pas seulement eu lieu. En 2013, lorsque le président Barack Obama est arrivé à Dakar dans le cadre d'une visite d'État, il s'est clairement prononcé contre les droits des homosexuels. Et en 2015, en France, clairement, il a réaffirmé l'hostilité des populations sénégalaises aux homosexuels du fait des cultures et des traditions.
Donc, oui, donc là, il y a quand même, pardon, Boris Berthold, il y a quand même un problème politique. Vous disiez tout à l'heure, les lois sont une production des avancées sociétales, certes, mais parfois, les responsables politiques peuvent avoir de l'avance sur les sociétés. Si on regarde, par exemple, la question de la peine de mort en France, c'est exactement le cas. Quand on décide d'en finir avec la peine de mort, en réalité, la société n'y est pas tout à fait prête. Donc, il y a une responsabilité de nos politiques. Or, en la matière, si on regarde la question du Sénégal que vous évoquiez, Macky Sall a voulu effectivement prendre un certain nombre de mesures pour faire avancer les droits des homosexuels et finalement il a fait marche arrière. Il y a là une responsabilité politique très forte.
Oui, il y a une responsabilité politique très forte dans la mesure où justement il est supposé avoir le pouvoir. Et c'est bien de prendre le cas de la peine de mort pour justement illustrer la capacité des institutions à un moment donné de changer les mentalités dans une société. Ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Et ce qui n'est peut-être pas également le cas dans d'autres pays qui ont des fortes composantes musulmanes. Mais parce que, et je reviens sur ça, parce qu'il y a le pouvoir des religieux. C'est-à-dire qu'il y a un lien très étroit entre la religion et le vote. C'est-à-dire que les pouvoirs politiques, les responsables politiques ont peur de se braquer une partie de l'électorat. Une partie de l'électorat, justement, qui considère que l'homosexualité est une orientation sexuelle qui ne répond pas à leurs valeurs, qui ne correspond pas aux normes des sociétés africaines, entre guillemets, ce qui est encore un grand mythe ou l'un des grands mensonges de la période contemporaine sur le continent. Donc, vous avez également ce type de mythes qui sont construits, qui sont entretenus dans la société et juste, il devient difficile pour un homme politique d'aller à l'encontre de ce type de discours. Donc, ils sont obligés de souffler du chaud et du froid. C'est-à-dire qu'on dépose en 2016, par exemple, il y a en fait peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale sénégalaise depuis 2016 pour une criminalisation officielle de l'homosexualité, une augmentation à près de 10 ans des peines. Donc, cette loi n'a pas avancé. Elle n'a pas avancé parce qu'elle est bloquée et ça traduit clairement en fait la réticence du pouvoir politique à s'engager sur cette voie. Vous voyez un peu, mais dans le même temps, si on ne criminalise pas officiellement alors qu'on affirme l'hostilité du pays et de la société à l'égard des homosexuels, on ferme également les yeux sur ce type de pratique pour donner des gages à la communauté internationale. Ça montre en fait toute la complexité du débat dans lequel nous nous trouvons.
Alors, ça c'est le cas du Sénégal. On va prendre un autre exemple où précisément on a réussi à faire avancer les choses. L'Angola, janvier dernier, l'Angola décriminalise l'homosexualité, retire de son code pénal une clause sur les vices contre nature, je mets des guillemets à la formule. Le gouvernement interdit même la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et en effet, toute personne qui refuse d'employer quelqu'un en raison de ses orientations sexuelles pourra être punie d'une peine de 2 ans de prison. Alors, évidemment, peut-être que dans l'application c'est compliqué parce que c'est difficile de prouver cela, mais en tout cas, le texte existe et donc on voit bien qu'il y a une réelle avancée. Comment la comprendre, cette avancée? Est-ce que c'est le fruit, pour le coup, d'une volonté politique, d'une mobilisation citoyenne, d'une société qui peut-être aurait évolué, Maurice Berthold?
C'est la combinaison certainement de deux facteurs. Le premier facteur, c'est une avancée, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité. À un moment donné, des acteurs politiques décident de prendre sur eux à bras le corps ce type de problématique. Comme vous l'aviez toujours dit sur la peine de mort en France, et c'est ce qui s'est passé. La société n'était pas forcément ouverte à cette dépénalisation, mais également, ce qui se produit en Angola, c'est que vous avez des acteurs qui ont décidé de lever cette répression contre les homosexuels, mais également les avancées de la société. N'oubliez pas qu'avec le boom économique de l'Angola, il y a eu un afflux important d'étrangers dans le pays. Et il y a une économie qui s'est en fait libéralisée. Donc, et la libéralisation entraîne également la multiplication des formes de sexualité. C'est-à-dire que, au même moment où on a observé en Afrique, avec la pauvreté, la diversification des activités sexuelles, au même moment également, l'enrichissement ou le bon économique peut produire également cette multiplication des formes de sexualité. Donc c'est ce qui s'est produit en Angola.
C'est donc essentiellement le développement économique. En tout cas, c'est très important. C'est un élément nécessaire.
C'est très important. C'est très important parce qu'à un moment donné, ceux qui viennent s'installer, qui viennent faire de la richesse, ont également besoin de s'épanouir. Donc, l'État doit pouvoir concilier également cela.
Et alors, si on regarde par exemple le Kenya, qui lui avait envisagé justement de dépénaliser l'homosexualité et puis finalement a reporté cette décision, pour quelle raison? Est-ce que c'est précisément peut-être parce que il manque encore des choses s'agissant du développement économique du pays ou c'est autre chose encore?
Non, c'est le développement économique n'est qu'un aspect. Il ne peut être important que s'il y a une volonté politique. Et la volonté politique, il faut prendre en compte les intérêts des acteurs politiques à un moment donné.
Parce que donc au Kenya, il n'est pas là l'intérêt politique, c'est ça que vous voulez dire?
Au Kenya, il n'y a pas encore des gains potentiels. C'est parce que si l'homophobie a permis, par exemple, au régime ougandais, au régime ougandais de Museveni, de bénéficier de certaines subventions venant des églises américaines. Au Kenya, également, il faudrait qu'il y ait des garanties. C'est-à-dire que qu'est-ce que les acteurs politiques gagnent en dépénalisant l'homosexualité? Il n'y a pas seulement une volonté d'ouverture, il n'y a pas seulement une volonté de protection des individus, mais il y a également un enjeu lié à leur propre survie dans le jeu politique.
C'est la problématique. Quel gain politique, c'est aussi ça qu'il faut regarder. Boris Berthold, quand on regarde un petit peu les choses, et vous nous l'avez un petit peu dit, très souvent, ces lois qui pénalisent l'homosexualité sont un héritage de la période coloniale. On parlait de l'Angola, par exemple, à l'instant. Dans le cas de l'Angola, c'est un texte qui remonte précisément à la période coloniale, mais c'est très souvent le cas. Est-ce que ça veut dire que, avant la colonisation, les représentations de l'homosexualité en Afrique étaient très différentes d'aujourd'hui? Les relations entre personnes du même sexe étaient-elles mieux acceptées avant la colonisation?
Oui, c'est-à-dire que les rapports entre personnes de même sexe obéissaient à des logiques locales, c'est-à-dire qu'elles pouvaient s'inscrire dans une dimension ludique. Vous avez des sociétés telles que la société Azandé, où par exemple les femmes se livraient à des rapports sexuels entre elles parce que les hommes allaient en voyage, allaient en guerre, étaient absents sur des longues durées. Donc c'était des pratiques relativement tolérées. Vous aviez également des pratiques liées au pouvoir, en termes d'initiation du jeune garçon pour le passage à l'âge adulte. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est, même si elle n'était pas officiellement acceptée, il ne constituait pas des pratiques régulatrices de la société, elle n'était non plus réprimée, parce qu'il n'y avait pas d'identification.
Donc ça veut dire, si je vous comprends bien, qu'au fond la colonisation a eu pour effet d'ériger l'hétérosexualité comme norme dominante, et donc d'une certaine manière, l'homophobie en Afrique, c'est une invention de la colonisation occidentale. Je retourne les choses parce que très souvent ce qu'on entend dans la bouche des responsables africains, c'est que l'homosexualité serait une invention de l'Occident importée en Afrique. En réalité, c'est l'homophobie qui est une invention occidentale et qui a été exportée en Afrique.
Tout à fait, c'est l'homophobie qui est une exportation dans la mesure où la colonisation a fixé les catégories de genre. C'est-à-dire que avant la colonisation, les relations sexuelles, les pratiques sexuelles en Afrique étaient fluides comme en Asie, comme en Amérique latine. Mais le projet colonial, c'est d'abord un projet hétérosexuel. Donc, on a vendu aux Africains une manière de s'identifier sexuellement qui était en cours dans les sociétés européennes, ce qui a eu pour conséquence de créer des catégories sexuelles, les catégories hétérosexuelles et les catégories homosexuelles. Donc, ces deux catégories sont essentiellement des constructions colonial.
Alors,
d'où tout le problème.
Mais alors, puisque Boris Berthold, l'homophobie est une invention occidentale exportée en Afrique, on aurait pu penser que la décolonisation entraînerait une forme d'effacement, une forme de recul de l'homophobie. Or, c'est pas le cas. Alors, comment le comprendre? Pourquoi, au fond, cette décolonisation ne s'est pas accompagnée d'un retour, au fond, des anciennes représentations moins hétéronormatives? Est-ce que ça veut dire que la décolonisation des esprits n'est pas aboutie?
Oui, ça c'est clair. Il y a plusieurs travaux qui illustrent déjà cette question de la fin de la décolonisation ou du prolongement du processus de décolonisation.
Mais pourquoi garder ces anciennes représentations? Pourquoi ne pas revenir aux anciennes représentations?
Tout simplement parce qu'elles sont actuellement ancrées dans les sociétés. Mmh. C'est-à-dire que il y a eu une dynamique d'appropriation des valeurs et des normes sexuelles imposées en Afrique par les Occidentaux. Et ce processus s'est fait d'un point de vue institutionnel, mais également d'un point de vue religieux. Parce que même si on parle de colonisation, on voit le christianisme, mais on doit également voir l'islam. Parce que ces deux religions sont en réalité des religions importées. Donc ce syncrétisme-là a fabriqué de nouvelles sociétés et a dénaturé le système traditionnel qui était en cours, les relations de genre qui existaient dans cette société, qui étaient plus ou moins égalitaires entre les femmes, parce qu'il y a une subordination des femmes avec l'entreprise coloniale qui peut permettre de comprendre en réalité la puissance de la domination masculine et par là le rejet des hommes.
Attendez, Boris Berthold, ça veut dire que vous faites une corrélation entre les violences à l'égard des femmes et les violences à l'égard des personnes LGBT et que donc peut-être l'émancipation des personnes LGBT passerait aussi par l'émancipation des femmes?
C'est-à-dire, j'essaye de travailler sur cette thèse où j'estime que dans une analyse, dans le temps long, on peut penser que parce que les sociétés précoloniales étaient plus ou moins égalitaires entre les hommes et les femmes, et on a d'ailleurs plusieurs espaces où les femmes jouissaient de plus d'autorité que les hommes, la colonisation va naturellement subordonner les femmes aux hommes. Et la masculinité se matérialise par l'appropriation du corps de la femme par les hommes. Mmh. Et donc, l'expression de la domination masculine a un pendant sexuel très important dans la mesure où c'est l'acte hétérosexuel qui permet de construire la masculinité d'un individu. Dès lors qu'un homme ne peut plus être en relation avec une femme, il perd pour certains hommes toute sa masculinité. Il y a donc en toile de fond la question de la femme qui se pose. C'est-à-dire que si les femmes continuent à être subordonnées aux hommes, si les femmes continuent à être traitées comme des objets des hommes, il est difficile que d'autres hommes puissent accorder de l'importance aux gays.
Et est-ce que les mouvements militants ont compris justement ces liens entre les deux? Et quel type de synergie entre le militantisme LGBT et le féminisme en Afrique?
Si en Europe, justement, il y a ce débat sur l'intersectionnalité.
L'intersectionnalité, bien sûr.
L'intersectionnalité. En Afrique, c'est encore moins important. Moins important parce que c'est l'une des critiques, en fait, formulées au féminisme africain qui ne prend pas suffisamment en compte la question gay parce que la question gay ou la question lesbienne. D'ailleurs, les femmes hétérosexuelles au Sénégal, par exemple, qui protègent celles qui sont victimes de violences faites aux femmes, ont du mal à défendre les lesbiennes. Pour des gens qui travaillent sur ces questions, ils ne comprennent pas très bien ce problème. Mais ça monte dès lors que très bien que même dans des catégories qui sont marginalisées, qui sont subalternisées, il y a ce rapport à la question homosexuelle qui est très profonde, où on estime que l'hétérosexualité est à la limite institutionnalisée dans les pratiques et dans les institutions.
Et est-ce qu'il existe, vous diriez aujourd'hui, une différence de perception, de représentation entre l'homosexualité masculine et l'homosexualité féminine?
Oui. Il existe dans les entretiens, si quand vous discutez avec les jeunes en Afrique, s'ils sont d'un point de vue catégorielle opposée à la catégorie homosexuelle, il semble plus ouvert sur le lesbianisme que sur les gays. Ça montre très bien que les gays sont un problème. Quand vous interviewez des jeunes demoiselles par rapport aux gays, elles sont gênées parce qu'elles estiment que un homme, c'est celui qui va avec une femme. Et l'homme également va te dire qu'un homme, c'est celui qui va avec une femme. Donc, il y a une alliance, en fait, cette passerelle qui se construit. Mais des hommes sont très ouverts sur les lesbiennes. Donc, ce sont des réalités. Mais cela ne veut pas pour autant dire que les lesbiennes jouissent d'une immunité dans les sociétés africaines.
Ça, Les représentations sont différentes. Tout ça, derrière tout ça, il y a des batailles culturelles au fond. Et peut-être un mot là-dessus avant de retrouver un nouvel invité, Patrick Awondo, et pour parler du Cameroun. Mais il y a aussi la question justement des écrivains qui ont peut-être un rôle à jouer justement dans cette bataille culturelle. L'année dernière, le Salon africain de Genève avait organisé une rencontre autour du thème de l'homosexualité justement. Et il y avait notamment le romancier sénégalais que vous connaissez sûrement, Mohamed Mbougoursar, qui est l'auteur d'un dernier roman intitulé De purs hommes, qui est paru aux éditions Philippe Ray, sur l'homosexualité justement, qui souffle sur une scène absolument terrible dans un cimetière de Dakar où une foule haineuse déterre le cadavre d'un jeune homme supposément homosexuel. Jusqu'où vous pensez justement que ce genre de livre, ce travail des écrivains peut aider justement à modifier les représentations associées à l'homosexualité?
C'est l'un des pans sur lesquels il va falloir véritablement travailler, c'est-à-dire que changer les mentalités par le bas, changer les mentalités à travers l'éducation, c'est ce que j'essayais de mentionner au début, parce que les individus, les magistrats, ceux qui condamnent des personnes soupçonnées d'homosexualité, sans parfois avoir de preuves, ceux qui arrêtent des personnes, deux hommes dans une chambre juste parce qu'ils trouvent des préservatifs à côté sans avoir le moindre élément qu'il y a eu un acte sexuel. C'est-à-dire que ces gens, en fait, ont grandi dans des sociétés où on leur a martelé pendant des décennies qui voilà comment il fallait apprécier la sexualité. Or, le travail, justement, des écrivains, des intellectuels, est d'un point de vue académique, de commencer à remettre en cause ce type de représentation sur l'homme. sur les hommes, sur la liberté des individus.
Et justement, ça commence à venir, on voit tout, en tout cas poindre un certain nombre de choses qui vont dans ce sens. On parle toute cette semaine des droits LGBT+, de Dakar à Pretoria, sortir de l'homophobie d'État. On est avec Boris Berthold qui est avec nous en duplex de Lille, qui est chercheur en criminologie à l'université de Kent. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde, 11h34. On va prendre la direction du Cameroun.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
J'avais l'habitude de venir boire ici avec des amis. Vers les 22h et tard, deux carros de gendarmes sont garés. Alors, ils ont dit qu'ils vont prendre tout le monde qui est là. Et une fois à la brigade, ils ont dit qu'ils ont démantelé un gang d'homosexuels. Finalement, j'ai dû passer 12 mois et 12 jours en prison. C'est tellement dur. Inhumain. Parce que là-bas, dès que vous arrivez avec le motif d'homosexualité, vous ne méritez pas de vivre.
Voilà un témoignage qui avait été recueilli par France 24 en janvier 2014. Le Cameroun qui fait partie des États les plus répressifs à l'égard des homosexuels, avec beaucoup d'arrestations, d'emprisonnements. Ou alors aussi des cas où on empêche tout simplement des gens, des figures de la communauté gay de venir sur le territoire. C'est exactement ce qui s'est passé le mois dernier avec le fils du basketteur américain Magic Johnson, qui a été interdit de se rendre au Cameroun. Il avait été invité par l'UNESCO dans le cadre d'une conférence. Et ce jeune homme qui s'appelle E.G. Johnson, une figure emblématique de la communauté gay, a tout simplement été interdit de rentrer sur le territoire. On va retrouver depuis Yaoundé Patrick Awondo, qui est anthropologue, enseignant à l'université de Yaoundé. Le gouvernement Patrick Awondo camerounais a interdit d'entrer sur le territoire, donc cette figure de la communauté gay aux États-Unis, pour venir faire une intervention. Qu'est-ce que ça vous semble révéler de la position du gouvernement et peut-être du président Paul Biya sur la question de l'homosexualité? Et est-ce qu'il faut comprendre qu'au fond, le Cameroun n'est absolument pas prêt à faire la moindre concession sur la question du droit des personnes LGBT?
Ce qui s'est passé avec l'interdiction de l'arrivée du fils de Magic Johnson rappelle ce qui s'est produit en 2011 lorsque l'Union européenne a voulu octroyer un financement à l'Association de défense des droits des homosexuels dirigée par Maître Alice Combe. Le ministre des Relations extérieures à l'époque avait rejeté ce financement. Et c'est un peu dans la même veine aujourd'hui. Mais dans le même temps, c'est un gouvernement qui permet à des associations de droits des homosexuels de travailler, notamment celles qui sont dans le domaine de la lutte contre le sida, tout en maintenant un dispositif légal contre les pratiques homosexuelles qui aurait pu être changé en 2016 lors de l'adoption du nouveau code pénal et du nouveau code de procédure pénale. Donc, on est bien là dans l'ambivalence du positionnement de ce gouvernement vis-à-vis de cette question LGBT, sans surprise.
Est-ce que cette question de l'homosexualité a toujours été aussi vive dans le débat politique, ou est-ce que vous diriez qu'elle est devenue un enjeu politique seulement récemment? Et si c'est le cas, pourquoi?
C'est devenu un enjeu politique très exactement en 2005, lorsque des acteurs moraux de la société, notamment une partie des médias à travers la presse privée, ont publié des listes de personnalités publiques présumées homosexuelles. C'était en décembre 2005. Il s'en est suivi un renforcement de la stigmatisation vis-à-vis de l'homosexualité, parce que le procès de l'époque était que des personnalités publiques qui ne sont pas des exemples de moralité travaillaient à corrompre une partie de la jeunesse en la soumettant à l'homosexualité contre le travail ou contre d'autres possibilités. Donc, c'est un procès qui a directement visé une partie du gouvernement. Et à l'époque, le président de la République, qui je pense n'est pas une personnalité homophobe, avait défendu le droit à la vie privée et avait pris la défense des personnalités visées par ces listes. C'est autour de ces événements que s'est grammatisée la question homosexuelle dans l'espace public au Cameroun. Et cela a contribué à la politiser considérablement dans le mauvais sens. Parce qu'il y a eu des arrestations et des procès qu'on n'avait pas vus jusque-là, même si la loi existait depuis les années 60.
Vous parlez d'acteurs moraux. Dans quelle mesure est-ce que les acteurs religieux ont participé précisément à cette stigmatisation des personnes LGBT? Est-ce qu'elles ont joué un rôle, ou est-ce qu'au fond, au contraire, peut-être, l'Église se montre plutôt tolérante et solidaire vis-à-vis des personnes LGBT?
Pour être tout à fait complet sur cette question, il y a eu trois types d'acteurs moraux qui se sont manifestés. Il y avait cette partie de la presse privée, mais il y a eu au début l'Église catholique, et notamment une homélie très très virulente le 25 décembre 2005, de l'archevêque métropolitain de Yaoundé de l'époque, qui avait stigmatisé cette homosexualité au sein du gouvernement et de manière plus large dans la société. Et le troisième type d'acteur moral qui s'est illustré, ce sont les leaders traditionnels, qui eux aussi sont montés au créneau pour stigmatiser l'homosexualité. Mais donc, il faut se rappeler qu'effectivement, le leadership de cette cabale anti-homosexuelle, on doit l'attribuer en partie aux acteurs religieux.
Patrick Awondo, est-ce que vous pensez que cette violence, cette stigmatisation à l'égard des homosexuels, c'est le produit d'abord et avant tout d'un régime législatif qui pénalise les relations homosexuelles? Si on fait par exemple l'hypothèse, Patrick Awondo, que Paul Biya, même si vous nous disiez qu'il y avait peu de chance, mais Paul Biya décide d'en finir avec la pénalisation de l'homosexualité, est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir des effets sur cette stigmatisation et cette violence?
À long terme, ça pourrait avoir des effets sur cette stigmatisation et sur cette violence, comme ça s'est illustré dans d'autres contextes. Mais dans l'immédiat, on aura des situations de backlash assez fortes qui se sont déjà illustrées aussi ailleurs dans ce type de combat. À chaque fois qu'il y a des avancées, eh bien, il y a des résistances très, très, très fortes. Mais pour revenir sur cette question juridique, effectivement, on sait que là où il n'y a pas de dispositif légal contre l'homosexualité, il y a moins de violence. Alors, il n'y a pas, c'est pas le degré zéro, mais il y a beaucoup moins de violence que dans des contextes comme le Cameroun où on peut utiliser la loi pour engager des actes anti-homosexuels, pour les légitimer, pour le dire comme ça. Parce que quand les associations de droits de l'homme et les défenseurs essayent de monter au créneau, on leur oppose souvent la loi. Parce que les arguments moraux, religieux, et traditionnels, entre guillemets, sont vite battus en brèche, mais il reste la loi.
Donc il y a un combat juridique à mener, et d'ailleurs il est mené, puisqu'il y a beaucoup de personnes au Cameroun qui se battent justement du point de vue juridique pour essayer d'en finir avec cette loi discriminante. Je pense par exemple à Alice Nkom, qui est présidente de l'Association pour la défense des homosexuels au Cameroun, qui essaie justement d'en finir juridiquement avec cette loi, en l'attaquant avec, justement, en utilisant la loi. Donc il y a ce combat à mener, et il est essentiel, Patrick Awondo.
Oui, il est essentiel. Il est essentiel, et pas seulement pour la communauté LGBT. Il est essentiel pour l'ensemble de la société. On ne peut pas appeler de tous nos voeux la démocratie, qui est urgente sur le continent et plus particulièrement au Cameroun, et penser qu'on va exclure de ce processus-là une partie de ses ayants droit. Les minorités sexuelles ont aussi droit au bienfait de la démocratie. Donc, le combat que mènent des gens comme Maître Alice Com et d'autres défenseurs des droits de l'homme et des droits des LGBT, c'est un combat salutaire pour, de ce point de vue-là, pour ce pays.
Merci beaucoup Patrick Awondo, vous étiez avec nous depuis Yaoundé, vous êtes anthropologue enseignant à l'université de Yaoundé et puis auteur, je l'indique, d'un livre qui va paraître dans quelques jours, Le sexe et ses doubles, homosexualité en post-colonie, qui paraîtra aux éditions ENS Lyon. Peut-être une toute petite réaction, Boris Berthold, en duplex depuis Lille, pour ce cas camerounais que vous connaissez.
Oui, c'est un cas que je connais très bien, c'est assez illustratif de ce qui se passe dans d'autres contextes. Mais je dirais qu'au-delà de l'homophobie politique, il y a également l'usage politique de l'homosexualité pour exclure dans le cadre des luttes de pouvoir. C'est-à-dire que la catégorie homosexuelle n'est pas seulement une catégorie qui permet à l'État, entre guillemets, d'affirmer ses valeurs et ses traditions dans le cadre de son identité nationale. Non, c'est une catégorie également qui sert à des acteurs politiques de réprimer, d'exclure, de lutter contre des adversaires potentiellement dangereux dans le cadre des luttes de pouvoir. Donc c'est cette étiquette qu'on accole à des individus homosexuels pour tel acteur, ça s'inscrit le plus souvent dans des logiques et des luttes au sein de l'appareil de l'État.
Alors, on a intitulé cette émission « Sortir de l'homophobie, d'État », pardon, Boris Berthold. Et justement, il y a un pays qui est particulièrement notable dans ce sujet-là, c'est l'Afrique du Sud, qui est le seul pays du continent à avoir voté une loi permettant le mariage entre personnes du même sexe. C'était en 2006, dans un continent où l'homosexualité, on l'a dit, est assez largement criminalisée. On peut voir évidemment tout cela comme une avancée très importante en matière de droits des homosexuels. On va retrouver tout de suite par téléphone Bénédicte Champenois-Rousseau. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, expatrié en Afrique du Sud depuis une trentaine d'années et auteur d'un blog qui s'appelle Ngisafunda. Comment est-ce qu'on comprend que l'Afrique du Sud ait été le premier et même le seul pays à permettre le mariage des personnes du même sexe? Est-ce que c'est lié à l'histoire du pays? Et est-ce qu'il faut le voir surtout, évidemment, c'est à ça qu'on pense tout de suite, comme le résultat aussi des luttes contre l'apartheid et les dominations raciales? Est-ce que c'est ça, finalement, qui a produit cette ouverture et ce progressisme?
Je pense que c'est effectivement très lié à l'histoire de l'Afrique du Sud et au fait que l'ANC et le parti de Nelson Mandela a voulu, dans la Constitution, être exemplaire contre la persécution des minorités et les minorités raciales comme les minorités sexuelles, enfin les minorités raciales, c'est une majorité raciale en ce qui concerne les Noirs, et les minorités sexuelles ne devaient pas pouvoir être opprimées de nouveau par une constitution sud-africaine.
Et ça a même été intégré dans la constitution, l'orientation, oui. La protection de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, ça a été intégré dans la constitution.
Oui, la constitution de 1996 est vraiment un modèle du genre, je voudrais dire, pour le monde entier. C'est une des rares constitutions à intégrer cela de façon aussi claire.
Alors, 10 ans après cette constitution, on a donc ce mariage homosexuel qui est légalisé. En 13 ans maintenant, hein, 2006-2019...
Non, en fait, je suis restée 3 ans. 3 ans.
3 ans, comme... C'est
oui,
2006.
En Afrique du Sud.
Oui, d'accord. Mais en tout cas, okay. le mariage pour les personnes de même sexe, c'est légalisé en 2006. On est donc 13 ans après. Est-ce que la situation, justement, pour les homosexuels s'est améliorée en 13 ans? Est-ce que l'avancée législative a permis, effectivement, plus généralement, une amélioration des conditions de vie des personnes LGBT?
Alors, je crois que, comme la société sud-africaine est très clivée, elle est clivée socialement et racialement, malgré 25 ans de post-apartheid. Et donc, ça se retraduit beaucoup mieux pour les personnes qui sont dans les classes favorisées que les classes défavorisées. C'est-à-dire que ça dépend vraiment beaucoup de vos conditions de vie. Lorsque vous vous déplacez dans les métropoles comme le Cap et Johannesburg, dans les beaux quartiers, vous avez une normalisation de l'homosexualité, avec effectivement des couples homosexuels mariés qui sont totalement intégrés, etc. Lorsque vous allez dans les townships, le constat est beaucoup plus mitigé. C'est-à-dire qu'il y a quand même encore beaucoup une répression de l'homosexualité. Il faut dire aussi que l'Afrique du Sud est un pays extrêmement religieux, avec une grande prégnance des religions chrétiennes, évangéliques, etc., qui, pour la plupart, considère l'homosexualité comme quelque chose de non naturel.
Mais quand je vous entends mettre en regard les quartiers, disons, favorisés et les quartiers plus pauvres, dois-je comprendre qu'au fond, la situation a changé pour les Afrikaners blancs, mais qu'au fond, pour les Noirs homosexuels, rien n'a changé, ou beaucoup moins en tout cas? C'est ça que je dois comprendre aussi?
Oui, ouais. Je pense qu'il y a encore, il est beaucoup plus facile d'être homosexuel et blanc qu'être homosexuel et noir, ne serait-ce que parce que d'une part, socialement, vous êtes en général plus favorisé et en général plus à même de pouvoir assumer vos préférences sexuelles. Mais c'était déjà le cas sous l'apartheid où l'homosexualité était réprimée, mais il y avait quand même des lieux pour les homosexuels blancs où on pouvait vivre cette différence. C'est ce que raconte d'ailleurs Mark Gevisser, qui est à la fois essayiste et romancier, dans son essai qui s'appelle Lost and Found in Johannesburg, donc où il découvre son parcours de homosexuel découvrant ses préférences sexuelles et découvrant les lieux à Johannesburg où il pouvait aller sans être réprimé. Il a été ensuite à l'occasion de la Treatment Action Campaign qui a demandé des traitements antiretroviraux pour les malades du sida. Quand vous êtes dans un township, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir assumer ce type de différence.
Alors, on comprend bien effectivement qu'effectivement, du coup, dans ces townships, les conditions pour les homosexuels sont difficiles et peut-être pas à la hauteur des espoirs en termes de législation. Mais justement, la question de la justice. L'année dernière, il y a un pasteur qui avait été condamné pour des propos homophobes. En Afrique du Sud, ça avait beaucoup marqué, il y avait beaucoup de débats autour de tout cela. Est-ce que ça veut dire que la justice, en tout cas, protège bien les homosexuels? Si c'est pas le cas au quotidien et que ça reste compliqué dans les quartiers, est-ce que la justice, pour le coup, fait son travail sur cette question-là?
Oui, la justice fait son travail. Il y a un appareil judiciaire remarquable en Afrique du Sud et des juges qui sont indépendants et courageux. Donc, ils n'hésitent pas à aller contre, effectivement. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu d'affaires qui arrivent aux tribunaux. Et qu'en général, les homosexuels qui sont victimes d'actes homophobes ne vont pas se dénoncer. Mais c'est comme les victimes, d'ailleurs, de gender-based violence. Et il y a une grande connivence entre les mouvements féministes en Afrique du Sud et les mouvements LGBT. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'aller dans un commissariat pour dénoncer une gender-based violence ou des actes homophobes n'auront aucun effet. Donc le problème aussi, c'est que, en fait, quand vous êtes dans un township noir, vous avez très peu confiance dans la police et très peu confiance dans le fait que votre justice vous sera rendue. Donc vous n'allez pas le faire.
Toute dernière question.
Malheureusement,
je vous en prie, malheureusement.
Mais malheureusement, il y a quand même beaucoup d'actes homophobes qui ont lieu, de viols correctifs pour des hommes ou pour des femmes, ou effectivement de gens qui vous amènent à des guérisseurs ou à des gourous pour essayer de vous guérir, entre guillemets, de votre homosexualité.
Bénédicte Champenois-Rousseau, si on regarde un tout petit peu, ce sera ma dernière question, les politiques, les responsables politiques. Alors, Jacob Zuma avait été à la tête du pays de 2009 à 2018, contraint à la démission, c'est maintenant Cyril Ramaphosa qui est à la tête du pays. Ses positions, en quelques mots, sur l'homosexualité, et est-ce qu'on peut attendre de lui des avancées pour les droits des personnes LGBT?
Je pense que Cyril Ramaphosa est beaucoup moins traditionnaliste que Jacob Zuma. Il ne se pose pas du tout en leader traditionnel, ce qui était le cas de Jacob Zuma. En même temps, son focus est extrêmement économique, si vous voulez. Et donc, je ne suis pas sûre qu'il ait dans ses objectifs aujourd'hui de faire avancer la société sud-africaine dans son ensemble.
Vous en attendez pas grand-chose, en tout cas?
Non. Je pense que j'attends beaucoup plus de la société civile, qui est extrêmement dynamique, avec des ONG qui font un travail remarquable sur le terrain. Et je pense que c'est plus de là que viendront les changements que du politique.
Merci beaucoup, Bénédicte Champenois-Rousseau. Je rappelle que vous êtes sociologue, expatrié en Afrique du Sud depuis une trentaine d'années, et puis auteur de ce blog Ngi Safunda. J'espère que je prononce correctement. Merci à vous.
Oui, qui veut dire j'apprends encore en Zoulou.
Eh ben voilà, on apprend tous encore. Merci infiniment.
Voilà, merci beaucoup.
Voilà, Nobody Knows, là, ici, interprété par le célèbre Negro Spiritual, le groupe, pardon, sud-africain BCUC, voilà, que je connaissais pas, une découverte de Benjamin Hu. Un grand merci à Boris Berthold, qui était avec nous en duplex de Lille, qui nous a éclairé ce matin sur ces délicates questions, sortir de l'homophobie d'État de Dakar à Pretoria. On peut évidemment retrouver cette émission sur le site de France Culture. Et je rappelle, Boris Berthold, que vous êtes chercheur en criminologie à l'université de Kent. On poursuivra cette série demain, mais pour l'heure 11h53, c'est l'heure de Brice Couturier, son tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Et bonjour Florian.
Alors on parle depuis hier des valeurs asiatiques. Un premier débat sur les fameuses valeurs asiatiques avait eu lieu au début des années 90.
Oui, mais c'était dans un contexte précis, au lendemain des événements de la place Tiananmen, au cours desquels des milliers d'étudiants chinois qui manifestaient pour la démocratie ont été massacrés par le régime communiste. Lee Kuan Yew, le premier ministre de Singapour, avait mis en garde contre l'importation de ce qu'il considérait comme des valeurs occidentales, en gros les droits de l'individu face à la prééminence de la cohésion sociale. Il redoutait, disait-il, que la propagation rapide de cette aspiration à la démocratie libérale à l'occidentale déstabilise tous les gouvernements de la région et y sème le trouble. Alors ce qu'il entendait par « valeurs asiatiques » se confondait quelque peu avec le régime qu'il avait lui-même imposé à Singapour. Une petite nation de gens travaillant dur sous la direction supposée éclairée d'une petite élite dirigeante incorruptible et clairvoyante, au nom de la philosophie confucéenne. Les Singapouriens sont généralement considérés comme ayant troqué leur liberté civique contre un niveau de développement, de bien-être et de sécurité en effet assez exceptionnel. Lee considérait l'Occident tout entier comme décadent. Même l'Australie voisine, il disait, c'était une réserve de white trash. Déjà à l'époque, un des plus fameux dissidents sud-coréens, Kim Dae-jung, s'était opposé aux thèses de Lee sur les valeurs asiatiques. Le dirigeant singapourien, disait-il, prêche pour sa propre paroisse. Au nom des valeurs asiatiques, c'est sa propre autorité et son propre pouvoir qu'il défend. Kim Dae-jung devait d'ailleurs être élu président de la République de Corée en 1998, une Corée devenue déjà depuis un certain temps une démocratie incontestable et exemplaire. Et la théorie qui accorde une supériorité aux valeurs asiatiques dans la mesure où elles assurent une plus grande harmonie aux sociétés, marquée par la philosophie confucéenne, avait subi un fameux revers lors de la crise asiatique de 1997. Dans son livre que je citais hier, « The Future is Asian », le politologue indien Parag Khanna reconnaît que la célébration des valeurs asiatiques était alors quelque peu prématurée. Mais c'est pour ajouter aussitôt que les Asiatiques, eux, ont tiré toutes les leçons de cette crise de 1997 en se débarrassant des gouvernements paternalistes incompétents et en mettant de l'ordre dans le capitalisme de copains qui régnait à l'époque en Asie, alors que les Occidentaux sont loin d'avoir tiré, eux, toutes les conséquences de leur crise de 2008.
Mais alors Brice, comment résumer le confucianisme? Vous avez 2 minutes, bon courage.
C'est une philosophie conservatrice. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi Mao Tse-tung l'a combattue vigoureusement et en particulier durant la révolution culturelle. C'est une philosophie conservatrice qui prône une forme de société très hiérarchisée sous la direction d'une élite méritocratique et paternaliste. Elle met l'accent sur la responsabilité de l'individu envers l'État et c'est d'où le fait qu'elle est parfois présente comme une sorte de religion civique. Elle célèbre la famille et au sein de celle-ci la prééminence du père. Elle prône le respect des anciens. On a dit parfois du confucianisme que c'était l'équivalent asiatique du protestantisme chrétien. Travail, droiture, sens des responsabilités, décence et réserve. C'est pourquoi d'ailleurs le confucianisme a accompagné la modernisation dans plusieurs pays d'Asie orientale, comme le démontre une universitaire allemande, Carmen Elisabeth Schmidt, dans un article paru l'an dernier dans la revue Asian Journal of German and European Studies. Elle y développe une thèse fort intéressante. Le confucianisme, écrit-elle, a favorisé et accompagné la première modernité en Asie orientale. Les sondages montrent que les pays marqués par cette philosophie sont à égalité avec les pays protestants européens. Ceux qui ont opéré le plus nettement le passage d'une conception religieuse du monde à une vision sécularisée et rationnelle. L'importance de l'éducation, le respect de l'autorité, des règles établies et des hiérarchies a accompagné cette première modernisation weberienne, si l'on veut. Ces pays d'Asie orientale ont connu une modernisation économique très rapide, pilotée par des structures bureaucratiques jouissant d'une forte autorité. C'était, souvenez-vous, l'époque des dragons asiatiques. Par contre, le confucianisme, parce qu'il met l'accent sur l'autorité et la responsabilité et non pas sur la liberté individuelle, a entravé la seconde modernité, celle qui voit monter l'exigence d'expression individuelle et qui accompagne le cosmopolitisme culturel. Mais elle montre aussi, cette professeure allemande, que contrairement à la thèse des valeurs asiatiques, l'aspiration à la démocratie demeure très élevée en Asie et même en Chine, même si le contenu que donnent les Chinois à ce concept de démocratie est peut-être moins libéral qu'en Occident. La démocratie autoritaire leur paraît garantir plus de stabilité. Par contre, les Chinois plébiscitent l'égalité entre les sexes et les droits de l'homme. Davantage, figurez-vous, que les Japonais et les Coréens. Les élections libres sont peut-être un peu moins plébiscitées. Bref, les valeurs asiatiques pourraient bien être un mythe de plus.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.